bien le bonjour les amis, c'est Angelus Sudasson.
Et Croquette.
Oui, à chaque fois je suis en train de me dire qu'en fait, Galamandre, frère Croquette et Angelus
Sudasson. Bah ouais, mais bon, t'es pas galant.
Bah tu veux jamais faire les intros aussi.
Bah...
Je veux pas faire bonjour, c'est Croquette.
Pourquoi pas.
Donc du coup, nous revoilà pour ce numéro 21. Maintenant, on a retrouvé les numéros, en plus, on est fous.
Bah oui, mais on avait déjà retrouvé la dernière fois, non?
Non, avant, ça avait plus.
D'accord.
Au début, on disait, on ne sait plus. Et en fait, c'était le 20. Ce qui est bien, c'est on peut dire que la saison 2 commence au 20. C'est magnifique.
La saison 2, déjà.
La saison 2, bon, il y a eu 3 ans. Mais c'est comme les séries Netflix ou les machins. Des fois, tu as un petit moment entre les...
Ouais, ou Game of Thrones. On va devoir attendre très longtemps avant la suite.
Ou Veronica Mars. Ou Gilmore Girls.
Ouais, non, mais là, il y avait 10 ans, s'il te plaît.
Bah, on a fait 3 ans, on a fait un tiers.
Puis, c'est pas vraiment des saisons, en fait. Enfin, c'est pas vraiment une suite. C'est carrément une nouvelle série. Tu vois? Enfin, tu peux pas dire que c'est la continuité du truc, en fait.
Bah, Gilmore
même
Girls.
Si ça l'est... Non, c'est, ça s'appelle autrement. Ça s'appelle Gilmore
Girls. Oui, ben, ça s'appelle Gilmore Girls.
Une année dans une vie.
10 ans après, la chirurgie est passée par là, mais...
Ouais, et c'est toujours... Enfin, c'est pas drôle, en plus. Mais bon, passons. On n'est pas là pour parler série.
Oui.
Si, on pourrait, mais pas là.
Et puis, on va faire l'intro la plus longue du monde.
Oui.
Mais du coup, épisode 21, où tu vas parler de...
Bah, de livres.
Pour changer un peu. Mm. Et je vais parler, pour changer un peu, de jeux vidéo, mais aussi un petit peu de photos. Oh, changeons.
Mm.
Voilà. Du coup, comme je n'ai pas été galant dans l'intro, je te laisse commencer. Du coup, attention, petite jingle pour ton premier livre.
Donc voilà mon avis. Je sais pas comment, je sais jamais comment commencer un truc. Je vous parlais d'un bouquin, voilà.
Bah voilà.
Voilà. Qui s'appelle La petite boulangerie du bout du monde de Jenny Colgan. Ouais, Colgan.
Colgan, ça fait mieux Colgan, ça fait un peu médicament, donc
ouais,
on va dire Colgan.
C'est en anglais de toute façon. Que j'avais acheté il y a très 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 longtemps et que je
tu
n'avais
as lu, il y a pas très
pas
très longtemps.
Lu. voilà, donc oui, parce que j'achète plein de livres papier que je ne lis pas, parce que j'ai toujours tendance à prendre ma liseuse, parce que c'est plus pratique dans les transports en commun. Sauf qu'en fait, bah, là, du coup, je me retrouve avec plein de livres et que je me suis mise au défi de les lire, enfin, d'en lire un maximum avant la fin de l'année et de laisser un peu ma liseuse de côté. Donc, voilà, donc j'ai lu La petite boulangerie du bout du monde.
De Jenny Colgan, toujours.
Oui, toujours. Qui est. Bah, je vais vous lire le quatrième de couverture déjà. Quand son mariage et sa petite entreprise font naufrage, Polly quitte Plymouth et trouve refuge dans un petit port tranquille d'une île de Cornouailles. J'ai du mal avec les noms propres. Hein. Quoi de mieux qu'un village de quelques âmes battues par les vents pour réfléchir et repartir à zéro? Seule dans une boutique laissée à l'abandon, Polly consacre son
se consacre
à son plaisir favori, préparer du pain. Des petits plaisirs bizarres. Mais pourquoi pas, hein ? Ne jugeons pas. Petit à petit, de rencontres farfelues en petits bonheurs partagés, ce qui n'était qu'un break semble annoncer le début d'une nouvelle vie. Voilà. Donc,
elle finit donc boulangère.
Au vu de... Mais arrête de spoiler.
Bah, t'as fait du pain. Quelqu'un qui fait du pain, j'appelle ça un boulanger.
Donc, au vu de ce quatrième de couverture, forcément, on est dans de la comédie romantique, de la romance. Je me perds avec tous les... Il y a tous les noms, là, de style littéraire. Enfin, moi, je dirais que c'est de la romance.
Ouais, c'est un roman romantique.
Voilà. Parce que il y a new romance, chick lit, romance, je sais pas quoi, romance machin. Moi, je sais tous de la romance ou de la romance avec du cul.
Voilà, la new chick lit romance comme ça. Moi.
C'est ça, un peu. Donc c'est un peu niais parfois, souvent farfelu, mais en fait c'est comme disent les blogueuses qui bloguent,
qui
font des Instagram et des YouTube, c'est feel good.
Phil, si tu nous écoutes, merci.
Ah ouais, feel good.
Oui. Et oui, et 10 ans après, elle vient de remarquer que feel good, ça voulait dire feel good.
Mais non, mais moi, je l'appelle Philou le joyeux tout fou. Donc,
c'est pas faux.
J'ai vraiment eu l'impression de m'évader avec Polly sur sa petite île, en fait, parce que les descriptions sont très bien amenées. On a vraiment l'impression d'être sur sa petite île, bercée par les vagues et le vent. Et... illuminé par les phares et tout. Enfin bref.
Ah, c'est Broadchurch, quoi.
Mais non, c'est une comédie romantique, pas un truc où il y a des petits enfants qui meurent. Enfin.
C'est pas faux. Non, mais j'ai au niveau du. Enfin, c'est anglais, quoi.
Oui. Oui, c'est anglais. Et tous les personnages sont super attachants. Alors, il y a des marins, évidemment, un apiculteur, et il y a même un petit bébé macareux, qui sont les petits oiseaux, là. Et en fait, il est blessé, et du coup, Polly le...
L'achève.
Mais non, elle le recueille, et elle s'occupe de lui et tout. Et Polly aussi, elle est très attachante.
Oui, pas d'un côté.
C'est l'héroïne du truc. Oui, mais il y a des héroïnes de livres que...
Oui, mais c'est pas une comédie romantique à ce moment-là.
Oui, c'est pas faux.
C'est pas faux.
Alors, on rit, on frémit, on pleure aussi, parce qu'il y a des passages un peu tristouilles. Il y a des gens qui meurent et tout.
Il y a des bébés macareux qui... Non,
non, il va bien, le bébé macareux.
Le pire, c'est que je dis n'importe quoi, je l'ai pas lu.
Bah oui, non, il va bien. Et il y a aussi des passages un peu what the fuck, notamment avec Ruben, qui est l'ami super riche de Huckle, je sais pas dire son nom. Ils ont des noms chelous là-dedans, mais bon. L'apiculteur, en fait, du coup, il est pété de thunes. Et en fait, du coup, des fois, il fait des trucs... Du coup, dans l'histoire, ça fait un peu bizarre parce que... En fait, ça fait un truc un peu réaliste. Bon, même avec le bébé macareux.
Sauf lui qui est pété de thunes.
Et voilà, lui, il est pété de thunes et il va faire des trucs un peu dingues. Ils vont... Enfin, je vais pas... Non, je vais pas dire parce que sinon ça spoil le truc. Mais enfin, il y a des trucs un peu what the fuck. Mais en fait, ça gêne pas du tout. Enfin, ça m'a pas gêné dans ma lecture. Ça faisait même un peu une petite parenthèse un peu rigolote.
Dans tout ce rose.
Ouais. Et j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Et du coup, j'ai envie de m'acheter la suite.
Il y a une suite ?
Oui, il y a la suite. C'est une saison à la petite boulangerie. Oh, voilà.
Mais fait, comme... elle ouvre des succursales et tout. C'est en fait, ça, c'est les Sims font du pain. Quoi.
Mais en fait, comme je n'ai pas le droit d'acheter des livres avant la fin de l'année, j'ai décidé, voilà, il va peut-être falloir qu'on me l'offre.
Voilà. Et tu le prendras en liseuse.
Bah non.
Le gars qui n'a rien su. Et non.
C'est ça, voilà. Donc, bon, coup, c'est petit livre mignon.
Eh oui, question piège, mais si les gens veulent l'acheter.
Pocket, je crois. Pocket ou livre de poche, l'un des deux. C'est un livre de poche. Il y a, je crois, il y a 430 pages, un truc du genre. Donc il est quand même assez gros, mais je l'ai lu assez vite.
Je l'ai pas vu traîner trop longtemps, celui-là.
Pas très longtemps, non. Ouais. Non, ça se lit bien, ça se lit vite, c'est parfait pour moi qui lis dans le métro et tout, c'est pas trop prise de tête, enfin j'ai bien aimé, voilà.
Ok, eh bien on passe à moi, tu fais ton deuxième.
Non.
Passe à moi, allez c'est parti.
Non, je prends
pas le dernier, les jingles, c'est double série de jingles magnifiques, ils sont tellement magnifiques ces jingles. Allez c'est parti. Donc, je vais vous parler, une fois n'est pas coutume, de jeux vidéo. Et je vais vous parler de Dishonored, la mort de l'Outsider, qui est en fait un stand-alone, qui a un peu une tête de DLC, mais bon, c'est un stand-alone, vu que tu peux le faire à part sans avoir acheté le jeu, le Dishonored 2, parce que c'est la suite. Voilà. C'est donc, comme je disais, la suite de Dishonored 2, qui est lui-même la suite de...
Dishonored 1.
Bien. Qui est une suite de jeux, alors j'allais dire d'infiltration, pas forcément, parce qu'on peut être soit infiltration, soit complètement bourrin. Mais en tout cas, de jeux édités depuis 2012, si ma mémoire est bonne, édité par Bethesda et surtout développé par Arkane, qui est un studio lyonnais, donc français. Et qui est plutôt cool. C'est aussi eux qui ont fait prêt le jeu avec les... Je ne sais pas si tu m'as vu jouer avec, dans la station spatiale. Avec
non, mais je ne te regarde plus jouer.
voilà. Du coup, la suite qui est la mort de l'Outsider, pardon, je retombe sur mes baskets, j'allais dire, je retombe sur mes pieds, mais bon, soit. Et donc, la suite quasiment directe, il a dû se passer quelques mois, je ne sais pas exactement, après la fin de Dishonored 2, on ne joue pas comme dans les précédents épisodes canoniques, c'est-à-dire Dishonored 1 ou Dishonored 2, on ne joue pas Corvo. Mais on joue un adjuvant, on va dire, quelqu'un qui les avait aidés dans le Dishonored 2, qui est Megan Foster, aka en fait Billy Lurk, pour ceux qui connaissent un petit peu le lore et le background de Dishonored, qui était en gros le bras droit de Dodd, qui est celui qui, dans le 1, a un peu mis le feu aux poudres, en tout cas déclenché l'action en tuant l'impératrice dans le 1. L'impératrice qui est, rappelons-le, la mère d'Emily, qu'on pouvait jouer quelques années après dans Dishonored 2.
Ah, c'est pas Sissi ?
Non, d'accord, l'impératrice, non, c'est pas Sissi. Et du coup, on se retrouve à jouer donc Billy Lurk, hein, qui a laissé son nom, qui a laissé tomber son pseudo de, j'allais dire sa vie, de Megan Foster, pour repartir à la recherche de Dodd, donc le chef de la guilde, on va dire, des assassins, même si c'est pas vraiment ce, comme ça que ça s'appelle vraiment dans le jeu. Et je ne vous spoil pas en vous disant qu'après, le but du jeu, ça va être d'aller buter l'outsider, pour ceux qui connaissent pas ou qui connaissent qu'un peu Dishonored, l'outsider, c'est un peu le dieu slash, enfin un dieu, j'allais dire slash diable, on sait pas trop, en tout cas qui vit dans le grand vide et qui donne les pouvoirs à chaque héros qu'on dirige dans les épisodes de l'outsider, que ce soit donc Corvo, Emily, Dodd dans les extensions, du coup dans les deux extensions du premier épisode, où là, Billy Lurk, dans cette, on va dire, extension, même si c'est un stand-alone, je vais dire extension parce que c'est ce que c'est réellement, en fait. Du coup, que se passe-t-il ? Eh bien, en fait, on retourne à Karnaca, qui est une petite île de l'Empire des Îles, qui est le principal lieu d'action de Dishonored 2. Donc, ce qui est intéressant, c'est que, eh ben, on peut voir comment, après le passage de nos héros, j'allais dire, parce qu'on peut, dans le jeu, on peut faire soit Corvo, soit Emily, comment les choses ont évolué, comment les lieux qui étaient aux mains d'une faction est tombé aux mains d'une autre faction, comment des trucs sont tombés à l'abandon parce que plus personne les utilise, en tout cas, les gens qui étaient dans ces locaux-là ont complètement périclité, comment il y a d'autres, on va dire, soit meneurs, en tout cas d'autres figures qui ont émergé sur l'île. Donc c'est intéressant d'avoir ce retour-là et de voir cette évolution-là. Au niveau du jeu lui-même, c'est un épisode Dishonored, donc on retrouve, j'allais dire, toutes les qualités de la série, c'est-à-dire le style graphique et l'ambiance qui est vraiment prégnante. On arrive vraiment à se rendre dedans, c'est super beau. On est dans une espèce d'époque d'Angleterre victorienne, un peu steampunk, avec le côté, la classe moyenne, il n'y en a pas. Il y a juste soit des ouvriers prolos qui crèvent la dalle, soit des gens super riches, des gardes, des choses comme ça, des machines, voilà, un petit peu steampunk pour tout ce qui est, ce qui peut être, soit on va dire robot entre guillemets, soit système de sécurité. On retrouve justement pour tout ce qui est au niveau de l'environnement. Ce qui fait la richesse des Dishonored, c'est-à-dire que d'un objectif, on peut y aller par 15 endroits différents, en passant soit par des fenêtres fermées, soit en passant par-dessus, soit en passant à travers les gens, en les bourrinant, quoi.
Par-dessous ?
Éventuellement par-dessous, ou en passant à travers, mais de façon furtive, c'est-à-dire en utilisant les pouvoirs. Donc il y a vraiment, on retrouve toute la richesse d'un jeu arcane, parce que c'est un petit peu la même chose dans Prey, c'est-à-dire que si on regarde l'environnement, il y a des multiples solutions d'arriver à un même point. Et ça dépend aussi beaucoup de la façon dont on peut jouer, parce que comme dans n'importe quel Dishonored, on peut jouer tel le fantôme en étant 100% furtif et en ne tuant jamais personne. On peut être furtif mais buter tout ce qu'on croise en étant l'assassin moyen. Et on peut aussi être un gros bourrin, c'est-à-dire qu'on fond juste dans le tas à grands coups d'épée et de choses comme ça, de grenades, pour exploser un petit peu tout le monde, tel le Terminator moyen. Comme dans tous les Dishonored, on a, et comme je l'ai dit tout à l'heure, des pouvoirs qui nous viennent de l'Outsider. Là, comme c'est un épisode un peu light, extension slash, j'arrive pas à dire ce mot, standalone oblige, tout est un petit peu plus ramassé. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir, je crois qu'il y en a 5 ou 7, je sais pas, je dirais n'importe quoi, mais là il y a que 3 pouvoirs qui malheureusement correspondent beaucoup à ceux de Corvo, donc ça nous change pas trop. Il y a bien sûr l'espèce de téléportation, clignement, enfin, suivant comment il l'appelle, l'idée elle-même, c'est qu'on peut se projeter à un endroit et se téléporter d'un endroit à l'autre. Il y a la vision pour voir à travers les murs, c'est-à-dire voir les ennemis, voir les systèmes de sécurité, où c'est qu'ils sont branchés pour pouvoir éventuellement aller les débrancher. Et le seul nouveau pouvoir, en gros, qu'il y a, le troisième, c'est ce qu'ils appellent le pouvoir semblance. C'est-à-dire qu'on peut prendre l'apparence de quelqu'un qui tombe un petit peu dans les vapes, et tant que ils n'ont pas la supercherie n'est pas découverte, et tant que notre pouvoir du vide, pour les néophytes, on peut dire un peu la magie, ce qui fait que la ressource, qui fait que quand on utilise des pouvoirs, en fait, ça pioche dedans, et ben, tant qu'on en a, on prend l'apparence de quelqu'un, donc ce qui peut être utile pour duper des cartes ou des personnes, c'est-à-dire que on prend l'apparence d'une personne habilitée à aller dans un endroit ou choses comme ça. Donc ça, c'est le troisième pouvoir. L'autre petit changement, un petit changement par rapport aux épisodes, on va dire, canoniques, c'est que on ne peut pas les améliorer, par exemple, clignement, c'est-à-dire la téléportation, on pouvait, par exemple, améliorer la portée, c'est-à-dire qu'elle aille plus loin, ce genre de choses-là. Là, on ne peut pas. Les pouvoirs, on les a de base, ils n'évoluent pas. Et l'autre nouveauté, c'était qu'avant, il y avait, par exemple, plusieurs... la barre de pouvoir du vide, en fait, d'énergie du vide était découpée en plusieurs fragments. Et une fois que tu avais un fragment, tu devais boire une potion pour augmenter ton fragment. C'est-à-dire que si tu utilisais qu'un demi-fragment, ça remontait tout seul. Mais une fois que tu en avais utilisé un, ça remontait pas tout seul. Tu devais, pour remplir un fragment entier, reprendre une potion. Mm-hmm. Voilà, je sais pas si je suis clair. Mais là, du coup, il n'y a plus de potion de magie dans le jeu. C'est-à-dire que l'énergie remonte toute seule, et même d'un fragment à l'autre. Là, il y en a trois de base, on peut le monter à quatre, je crois. Je pense même pas, je crois. On peut le monter à quatre, mais la magie remonte toute seule et passe d'un fragment à l'autre toute seule en remontant. Ce qui fait que dans le jeu, il n'y a plus de potions de magie, en fait. Il n'y a plus que celle de santé à l'ancienne. Il y a plein de tests que j'ai lus qui disent que du coup d'avoir que trois pouvoirs, ça rendait le jeu plus difficile. J'ai pas trouvé que c'était plus difficile.
Surtout que tu l'as fini en 2-2, quoi.
Ouais, je l'ai fini en 2-2, quoi, en 2 jours et demi, un truc comme ça. Parce qu'en fait, il n'y a que 5 chapitres, alors qu'il y en a beaucoup plus dans les autres, il y en a au moins 8. Donc c'est assez ramassé. Des chapitres qui sont plus ou moins longs, on va dire plus ou moins intéressants. Mon préféré, c'est le 2, peut-être parce que c'est le plus long, celui où il y a plus de sous-objectifs, ce genre de choses-là. Sachant que l'autre nouveauté instaurée par le jeu, c'est que on peut maintenant avoir des contrats, en gros, c'est des sous-objectifs à accomplir qui nous permettent de débloquer essentiellement soit des charmes d'os, c'est-à-dire les petites, on va dire, c'est des petits bonus qu'on place sur nous pour augmenter des compétences, c'est-à-dire par exemple, ça peut augmenter l'agilité pour nous faire sauter plus loin, ça peut par exemple faire en sorte qu'on ait plus de santé ou plus d'énergie du vide, voilà, ce genre de choses-là. Et donc, remplir ces contrats nous permet d'avoir soit des charmes d'os en plus que ceux qu'on trouve dans l'environnement, ou d'avoir tout simplement plus d'argent pour acheter plus de trucs dans les boutiques. Comme tous les Dishonored, on retrouve deux façons d'arriver au bout des missions, encore une fois, une façon létale où on bute le type, ou une façon non létale où on passe par un autre, soit en l'assommant, soit en le convertissant, par d'autres moyens, que de lui planter une épée en travers de la gorge. Pour l'essentiel, en fait, c'est un bon Dishonored, mais ça n'a pas de... Il n'y a aucune nouveauté, on retombe dans nos baskets, c'est-à-dire peut-être un peu trop, parce que
t'aimes bien retomber dans tes baskets, hein.
Mais où on se retrouve comme dans des pantoufles, c'est-à-dire dans le sens où c'est un Dishonored, mais on se retrouve à la fois dans les mêmes lieux, quasiment, à part le troisième pouvoir, avec les mêmes pouvoirs. Et voilà, c'est un. Et puis il est assez court. Bon, après, c'est juste un stand-alone, mais il est quand même assez court. Je pense qu'il vaut principalement, en dehors des qualités des jeux Dishonored, par le fait que. Ça permet de finir l'arc narratif de l'Outsider, quel que soit le choix qu'on fait à la fin. En tout cas, ça met un terme à l'arc de l'Outsider. Peut-être un terme, je veux dire, définitif à la série Dishonored, parce qu'après, du coup, je vois pas trop comment ils peuvent continuer le truc, pardon. Donc, ne serait-ce que pour, en gros, finir l'histoire et finir le lore de Dishonored, si vous avez fait tous les épisodes précédents, ça vaut le coup de...
Enfin, tous les épisodes, il n'y en a que deux.
Ça vaut le coup de le faire. Oui, mais du coup, il y en a que deux, puis il y avait deux autres extensions pour le premier, d'accord. En fait, où on jouait justement d'autres.
D'accord.
Voilà, donc si vous aimez Dishonored, faites-le, voilà, faites-le, sachant que ça ne va pas être un grand bouleversement, c'est une suite logique, on va dire, un petit peu pépère. D'autant plus qu'il y a un New Game Plus qui permet de refaire le jeu, et à ce moment-là, avec vraiment les pouvoirs de Corvo, enfin trois des pouvoirs de Corvo, du coup, qui sont clignement, vision des ténèbres pour voir à travers, et domino qui permet d'appliquer... De lier les personnages entre eux pour leur appliquer un effet. En gros, domino, c'est-à-dire si on prend deux personnes et qu'on les lie, si on en tue une, et ben l'autre va mourir aussi parce que les effets sont liés. Donc du coup, le New Game Plus, c'est de refaire tout le jeu, enfin les cinq chapitres, avec ces pouvoirs-là. Si vous aimez Dishonored, je vous conseille de le faire, mais ce ne sera pas une révolution. Vous pouvez y aller maintenant parce qu'il est sorti le 15 septembre. Il est dispo sur PS4 et je ne sais pas s'il est sorti sur les autres. Si, apparemment, il est déjà sorti sur PC et sur Wine. Il est sorti sur toutes les plateformes. Voilà, genre, ils mettent action infiltration parce que je n'avais pas lu l'affiche. Avant, j'ai tout fait de tête comme un grand. Mais c'est vrai que voilà, suivant comment vous jouez, vous pouvez la jouer bourrin ou pas. Sachant que, comme dans tous les Dishonored, je joue infiltration parce que, un, je préfère l'infiltration. Deux, bourrin, j'y arrive juste pas. Je fais 3 mètres et je me fais laminer. Voilà, du coup, ton deuxième livre à toi ?
Oui.
C'est ça ? On regénérique Scooby-Doo.
Donc, mon deuxième livre que j'ai fini
il n'y a pas longtemps,
mais j'ai mis 3 plombes à lire, c'est Alice au pays des morts-vivants de Ménak Dar. Oui,
en même temps,
Ménak Dar. Un auteur indien. Donc, c'est on va lire le quatrième de couverture déjà.
Oui,
vas-y, fais-toi plaisir.
Voilà.
J'ai mon liseur maintenant.
Je suis préposé au quatrième de couverture. Le pays des morts, en Inde. Du monde d'hier, il ne reste rien, juste les armes nécessaires à la survie. Un virus a réduit la quasi-totalité de l'humanité à l'état de zombie. Le comité central et Zeus, son bras armé, règnent sur une partie du monde. Alice, 15 ans, vit dans une communauté indépendante. Pour toute école, elle n'a connu que celle du combat, et elle y excelle. Lors d'une patrouille, elle surprend un mort-vivant muni d'oreilles de lapin rose, sortir subitement de terre puis disparaître. Des rumeurs parlent d'un réseau souterrain où les mordeurs se réfugient. Sans l'ombre d'une hésitation, elle s'engouffre à sa suite et chute. 3 petits points, suspense. Qu'est-ce donc ?
Voilà, c'est bien, j'aurais dû peut-être lire le quatrième de couverture avant de lire le livre, parce qu'au moins on sait l'âge d'Alice, parce que durant tout le bouquin, impossible de savoir quel âge elle a, la nana, et... Voilà, donc elle a 15 ans. Voilà, je suis heureuse de l'apprendre.
Comment j'ai là ?
Mais bon, ça ne change rien, ça ne change rien à mon avis. Donc c'est un livre que j'ai reçu dans le cadre d'un swap, toujours via Livre Addict, qui était un swap zombie auquel je m'étais inscrite parce que j'adore les zombies. D'ailleurs, George Romero est mort cette année, je suis en deuil. Mais bon, je vais m'en remettre. Et tout ça pour dire qu'en fait, je suis contente de ne pas l'avoir acheté moi-même avec mes sous parce que ce qui n'est pas terrible. Enfin, je n'ai pas aimé. Parce qu'on ne peut pas dire que ce n'est pas terrible.
Oui, c'est pas que c'est nul, c'est que tu n'as pas aimé.
Voilà, non, parce que.
Tu l'avais pourtant demandé.
Oui, c'était dans ma wishlist Amazon depuis des plombes aussi. Et, parce que c'est vrai que quand on aime les zombies, quand on aime bien Alice au Pays des Merveilles, on se dit ouais, les deux ensemble. Ça peut peut-être être sympa. Et puis en fait, non, gros flop, quoi. Réinterpréter Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll, why not ? Dans un univers post-apocalyptique, c'est pas facile à dire.
Oui, que c'est après l'apocalypse, quoi.
Pourquoi pas ? Mais en fait, une constipation.
Oui, c'est...
Une conspiration avec un virus libéré et qui transforme les humains en zombies, c'est un peu du déjà vu mille fois.
Oui, après, d'un autre côté, il n'y a pas 15 façons de faire des zombies.
Oui, mais dans la façon où c'est décrit, en fait, moi, ça m'a fait penser à Resident Evil, en fait. Vraiment. Et un comité qui assure une sécurité en échange de tribus humains, ça te rappelle pas quelque chose ? Hunger Games ?
Ah, ouais.
Ouais. Du déjà vu aussi. Alors, si en plus on ajoute l'univers d'Alice au Pays des Merveilles avec la Reine de Cœur, le Chapelier Fou, le Lapinou, bah ça fait un peu too much au niveau du déjà vu quand même.
Du coup, la Reine de Cœur, c'est un zombie ?
Oui, tout D'accord. à fait.
Ok, soit.
Et du coup, bah, ça manque vraiment d'originalité. Mais.
Je crois qu'avec le lapin zombie, on était bien parti. Hein.
Oui. Mais non, en fait, parce que je lis à chaque fois, je m'attendais à ce que. Ça s'arrange, en fait. Mais en fait, non, ça reste constant. Il se passe des choses, mais en même temps, il ne se passe rien. On ne sait pas trop où ça va en venir. On a l'impression de déjà-vu permanente. Y a des scènes un peu glaireuses, là, avec la pauvre Alice. Donc, du coup, je ne savais pas son âge. On passe son temps à dire qu'elle est jeune, qu'elle est toute jeune et tout, machin. Et il y a des mecs qui veulent se la taper. Violemment. Hein,
parce que, en même temps, bon, elle a 15 ans, c'est après l'apocalypse.
Mais oui, mais du coup,
on
sait pas son âge. Enfin, dans l'histoire, à aucun moment, on te dit Alice a 15 ans. Mais même, elle a 15 ans, enfin. Voilà. Et on touche pas à Alice. Enfin, bref, c'est des trucs dégueulasses. Enfin, bref. Donc, tout ça pour dire que.
L'apocalypse n'excuse pas tout, monsieur.
Voilà, tout à fait. D'ailleurs, je ne sais plus dans quel film qui partait pas trop mal. C'était quoi ce film ? En fait, j'avais bien aimé jusqu'au moment où, en fait, tous les gars ont voulu sauter toutes les meufs du truc. Et là, je me suis dit, merde, c'est naze. C'était quoi ce film ? Je m'en rappelle plus. Faudrait que je retrouve le titre du film. C'était un film de zombies. Encore, mais si vous avez une idée de ce que ça peut être le film, il se retrouve dans un espèce d'hôpital ou une prison ou je sais plus quoi. Non, c'est pas Walking Dead. Et enfin bref, c'était chelou et je vois pas l'intérêt en fait. On a un peu l'impression que c'est genre comme dans les films d'horreur là où il y a tout le temps une nana qui doit se faire sauter à un moment pour avoir le prétexte de la buter alors qu'elle est en train de se faire sauter. Enfin bref, ça m'agace.
Et voilà. Donc du coup Alice.
Et bah du coup, j'ai pas aimé du tout. Et il y a une préquelle et une suite. Autant vous dire que je ne le lirai pas. Mais voilà, je suis quand même contente de l'avoir lu parce que depuis le temps que c'était dans ma wishlist.
Du coup, indépendamment du fait de commencer à raconter, l'histoire est pas top.
En fait, on a vraiment l'impression que c'est une ressucée de plein de trucs qui existent déjà, en fait. Vraiment, j'ai l'impression de lire un truc que j'avais déjà vu, déjà lu, déjà tout ce que tu veux, en fait. C'est pas du tout original, en fait.
D'accord.
Mais pas du tout. Non. Non.
Donc pas bien.
J'ai vraiment rien trouvé de positif dans cette histoire, en fait.
Ok, donc voilà. Lui, il n'y a pas lire.
Pourquoi pas ?
À part si vous aimez les livres pourris.
Oui, non, mais je pense qu'il doit bien y avoir des gens qui ont aimé, sinon ils n'auraient pas fait une suite et une préquelle. Mais moi, non, vraiment pas. Et pourtant, je lis des trucs pourris à base de zombies, hein, mais là, non. Genre, en ce moment, je suis en train de lire Orgueil, préjugés et zombies. Donc, qui est une réinterpretation d'un célèbre roman de Jane Austen.
Avec des zombies.
Avec des zombies. Et alors, c'est tout bizarre parce qu'en fait, il y a le texte de Jane Austen et il y a des trucs de zombies intercalés. C'est complètement what the fuck, mais tu vois, enfin, j'aime bien. Il y a plein de gens qui n'ont pas aimé. Moi, j'aime bien. Donc, les goûts et les couleurs. Surtout le bleu violacé des zombies. Tout dégueulasse. Pourquoi pas? Mais okay. Moi, j'ai pas aimé.
Mais pas Alice au pays des morts-vivants.
Pas pour moi.
Ok, eh bien, soit. Et du coup, on va passer sur cette non-recommandation à.
Si, vous pouvez le lire, hein, mais si vous aimez lire de la merde. Voilà.
Et du coup, on va passer un petit peu de photos, au moins c'est clair, voilà. Voilà, tiens, et un troisième voilà pour la suite et jingle. Et donc, pour changer un peu, je vais parler de photos, plutôt d'appareils photo, parce que Fuji a sorti ou va sortir, en tout cas ils l'ont annoncé le mois dernier, et il va sortir courant octobre, j'avoue que j'ai pas spécialement la date. Je parle de quoi? Je parle du Fuji X3. Et le Fuji X3, pourquoi il est bien? Pourquoi je vous en parle? D'une part parce qu'il me fait de l'œil, et parce que je le trouve assez sympa. C'est celui dont je t'avais parlé.
Oui, oui.
Celui-là, là-bas. Pourquoi? Parce que, pour tout vous dire, pour ceux qui suivent depuis un petit peu longtemps, vous savez que j'ai, et en tout cas, j'ai toujours mon X100S, qui est très bien, même s'il commence un petit peu à accuser le poids des années à partir de certaines fonctions, à cause de certaines fonctions que Fuji a implémentées depuis dans ses appareils. Et surtout, le fait d'avoir qu'un objectif, du coup, pas du tout interchangeable, qui est un 23 mm qui ouvre à un 8 ou 2, je crois, un 8, me semble-t-il. Et ben, c'est un petit peu, même si c'est très formateur, c'est un petit peu frustrant, en tout cas pour moi, au fil du temps. Et pourquoi il est bien ce X3? Parce que, en gros, pour vous la faire courte, c'est un X100. Alors maintenant, ils en sont au X100F. Mais en gros, c'est plus ou moins un X100F avec des objectifs interchangeables. C'est-à-dire qu'on peut lui mettre.
Échanger.
Oui, mais c'est-à-dire qu'on peut lui mettre tous les objectifs de la série X dessus, que ce soit les XC ou les XF. Qui ont le mérite d'être dans l'ensemble de très bons objectifs, quoiqu'un peu cher, surtout sur la série XF. En gros, les XF chez Fuji, ça peut être je crois que c'est les séries L chez Canon, ou les fameux avec la bague rouge et des choses comme ça. Donc c'est les objectifs un petit peu premium, on va dire.
Et qui commence à quelle gamme de prix?
Plein. Merci de poser ces questions.
J'en sais rien, tu n'avais pas préparé ton truc. Regardé, hein.
Pas le prix des objectifs, non, mais je crois que c'est aux alentours de 400-500 l'objectif. Quoi. Alors après, ça dépend des objectifs, mais après, ça monte aussi très haut. Faudrait regarder, j'avoue que je n'en sais rien. Du coup, pourquoi il est bien ce X3? Parce que, il reprend, en tout cas pour moi, tout ce qui est intéressant dans les Fuji, c'est-à-dire qu'il prend le design, ce qu'ils appellent rangefinder, ou en tout cas, les boîtiers un petit peu
vintage.
Voilà, un petit peu vintage, mais surtout pas le look des, comme par exemple, si vous connaissez la ligne Fuji des XT, c'est-à-dire plus le look, on va dire, réflexe avec la tête pour le prisme, même si en fait il n'y en a pas, mais ça reprend un petit peu le look réflexe. Là, on prend le côté un petit peu Rangefinder, un petit peu à la Leica, enfin ce genre d'appareil photo à l'ancienne.
Ah, j'avais compris la IKEA.
Non, Leica. Ouais, les appareils allemands qui coûtent une blinde.
Oui, oui.
Voilà. Pourquoi il est bien aussi? Parce qu'il intègre, comme tous les nouveaux appareils Fuji, le nouveau capteur à 24 mégapixels avec le nouveau processeur, le CMOS 3, le nouveau processeur X-Pro, pardon. C'est-à-dire qu'en fait, il a le même capteur que les X-Pro 2, les X-T2, le X-T20 et le X100F qui n'est pas dans la liste là, de l'article où je suis dessus pour les caractéristiques. Mais c'est le même, en fait, c'est-à-dire le nouveau capteur. Il filme en plus en 4K et contrairement au X, à la série X100, il a que le viseur numérique, il n'a pas de viseur optique. Mais pour rien vous cacher, je me sers jamais ou quasiment jamais, mais on peut dire jamais à ce niveau-là, du viseur optique de mon X100F. Alors ceux qui ont des X100 vont crier au scandale, mais le fait est là. C'est-à-dire que le fait que ce X3 en ait pas, ça me gêne pas du tout parce que je m'en sers pas. Je préfère le viseur numérique. Parce que au moins il y a le rendu direct de la photo ou quand on change les films, parce que c'est aussi un des atouts de la gamme Fuji, c'est qu'on peut avoir plusieurs simulations de films, et ben on voit directement le changement dans le viseur numérique. Donc voilà, moi je préfère le viseur numérique. Le fait que ce X3 n'ait qu'un viseur numérique, je prends pas ça pour un défaut, au contraire. Il a aussi un écran OLED de 1 040 000 points, voilà pour ceux qui s'intéressent. Et il a un grossissement au niveau de la visée de 0,6, ce qui est plutôt pas mal. L'écran, par contre, comme sur à peu près tous les rangefinders de Sony, autant pour moi, et pas orientable. Voilà, par exemple, il n'est pas comme le tien. Je rappelle c'est que toi, Croquette, tu as un XA2, je crois. Oui, c'est ça. Où on peut au moins lui donner un peu d'angle en... Soit le mettre à l'horizontale pour regarder par-dessus, soit mettre un petit peu d'angle.
Ce que je fais absolument jamais. Hein.
Mais toi, tu n'as qu'une visée par l'écran, tu n'as pas de visée...
Oui, c'est la question que je me posais. Mais en fait, l'écran qui... je m'en sers absolument pas.
Ouais, alors il y en a qui... Si ça peut être intéressant, c'est que des fois, pour soit photographier en concert, en chose comme ça, par-dessus les gens ou en mariage, quand tu leur vas, ou pour faire des photographies au ras du sol quand tu le mets en... quand tu le mets à l'horizontale. Mais c'est vrai que moi, je ne m'en sers pas plus que ça. Il intègre la connectique Wi-Fi, il intègre aussi une nouvelle connectique Bluetooth Low Energy qui est une première, je crois, chez
Fuji.
Chez Fuji, exactement. Et en plus, ils ont remappé, ce qui est assez intelligent, je trouve, et assez pas mal, voilà, les touches pour que, un petit peu à l'image d'un Leica, il y ait tous les boutons qui soient du même côté, en compte là, du côté droit. C'est-à-dire qu'on n'a pas des boutons des deux côtés de l'écran. On peut limite tout faire à une main. Et ce qui est aussi très bien, c'est qu'ils ont intégré, comme sur le X100F et sûrement sur les X Pro et XT, mais je suis pas sûr, à la place du trèfle de sélection, ils ont implémenté le petit stick, ce qui est particulièrement pratique pour choisir soit son point d'AF ou son point d'autofocus pour déplacer à l'écran. C'est super pratique. Bien sûr, on peut sélectionner en cliquant dessus. Il conserve aussi, comme sur les X100, la griffe soit porte-accessoire, soit porte-flash. On retrouve après tous les petits réglages. Hein, c'est pas très podcastophonique. Autant radiophonique, ça passe, autant podcastophonique, je ne sais pas si ça existe. Mais du coup, je vous mettrai un petit lien dans l'article qui accompagnera le podcast. Vers différentes vidéos ou différents tests, voilà, articles. Pourquoi il est bien aussi, c'est qu'en plus, je trouve que pour un Fuji, il n'est pas super cher parce que on le trouve à partir de 1200, enfin on va dire allez, 1300 euros en kit, sachant que l'objectif de kit est plutôt bon pour un objectif de kit, c'est-à-dire que c'est le XF 1855 de 8.4 de Fuji, qui est un bon petit zoom de kit, qui est en gros la version premium de celui que tu as, sauf que toi c'est un XC et que du coup il ouvre moins grand.
Oui, mais moi ça me suffit.
Oui. Après, tu ne fais pas tellement de photos dans la pénombre, ce genre de choses-là.
Bah non, moi je fais des photos.
Et il y aura apparemment un deuxième kit avec, on retrouve un 23 mm. Du coup, vous aurez la même longueur focale du coup que sur l'X100. Par contre, c'est le qui lui aussi est pas mal parce que c'est celui qui ouvre à deux, mais qui a le mérite d'être water résistante, qui est tropicalisé. Voilà.
Ah oui.
Et qui est un petit peu moins cher, parce qu'il est 100 euros moins cher à 1200 euros, enfin 1199.
Oui, mais plus psychologique. Voilà.
Disponible donc au mois d'octobre, ça devrait pas tarder, il est peut-être même déjà disponible, mais j'arrive pas à avoir une date de sortie. Mais bon, si vous êtes intéressé par les Fuji, si vous voulez en gros un X100, avec objectif interchangeable et que vous foutez un petit peu de la visée optique, et ben je crois que c'est l'appareil qui est fait pour vous. En tout cas, moi, je pense qu'il y a de grandes chances que ce soit mon prochain appareil de chez Fuji. Voilà, et je pense qu'on peut conclure ce numéro 21 en disant que, apparemment, on a pris un rythme d'un épisode toutes les deux semaines, donc je pense qu'on va rester là, vu que ça fait deux semaines qu'on a fait le numéro 20. Donc, on vous dit, il y a de grandes chances à dans deux semaines. N'hésitez pas à laisser des commentaires, soit sur iTunes, soit sur le blog de Marier deux iPhones. Je rappelle l'adresse, c'est marier2iphone.podchose.fr. Voilà, pour dire ce qui va pas, qu'on est les meilleurs ou les plus pourris. En tout cas, on essaiera de s'améliorer en fonction des commentaires. Et puis, on vous dit une bonne semaine avec Annès, tu sais, du coup, ça va faire deux semaines.
Deux semaines.
Et puis voilà, est-ce que tu as un mot pour la foule, le monde en général, les gens qui nous écoutent?
Ben, bonne semaine.
Bonne semaine à vous et à dans deux semaines.